France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Benjamin Biolay. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Gaumont nous parlera du film de James Cameron, Avatar 2. 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier. Qu'en est-il du statut artistique de la musique dans les films? Thierry Jousse, critique de cinéma, journaliste, nous en dira plus sur l'histoire des bandes originales. 19h50, Affaires à suivre en compagnie ce soir de Camille, qui a justement composé la bande originale de Corsage de Marie Kreutzer, sortie aujourd'hui au cinéma. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Nicolas Delmas et Cédric Châtelus à la prise de son. Bonsoir Benjamin Biolay.
Bonsoir.
Vous venez de sortir une version augmentée, dite de minuit, de votre album Sinclair, incluant des chansons de Noël. Vous proposez un Christmas show sur Canal+ dans quelques jours, on va bien sûr en parler. Aujourd'hui, sorti en salle, le nouveau film de Sylvie Vérède, Stella est amoureuse, vous y êtes le père de Stella, on évoquera aussi. Mais premier souvenir pour moi, certainement pas pour vous, là. C'est pas la première fois que je vous accueille sur cette antenne. La première fois, c'était le 31 mai 2001. Ce soir, c'est que la deuxième. C'était la sortie du premier album. Je vous demandais si vous aviez un message à les délivrer avec ce disque. Votre réponse.
La pluie qui tombe sur une lucarne, pour moi, c'est comme un beau film ou une belle chanson, un beau tableau. Je suis... Et ce genre d'émotion que je voulais transmettre. Si c'était ça mon message, ça me conviendrait, enfin, de résumer mon message à ça, quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de regarder ce genre de... Un coucher de soleil, une aube... C'est simple, je suis assez candide et naïf par rapport à ça. Mais non, voilà, si je devais délivrer un message, ce serait ça.
Bah, y a pas d'autre message, visiblement.
Bah si, est-ce que 21 ans plus tard, vous regardez toujours la pluie tomber sur les lucarnes
vers... Ça peut m'arriver, ouais. Après, je raconterai moins mes émotions intimes comme ça qu'à l'époque. À l'époque, on est... C'était il y a plus de 20 ans, donc oui, j'essayais de me positionner pour expliquer que j'avais fait une musique qui était finalement plus impressionniste qu'autre chose, et donc je tournais un peu autour du pot.
On vous voit en ce moment sur les affiches dans tout Paris, j'imagine dans toute la France, pour annoncer votre Christmas show sur Canal+. On y revient, personnage public, hein, chacune depuis ses 21 ans a une image de vous, ce qui peut aussi altérer cette candeur dont vous parliez. Là, une deuxième voix, vous faire écouter très vite, et après on vous écoutera à vous, Benjamin Biolay, mais un confrère, un aîné, que vous aimez tant, Charles Trenet, sur la question de la célébrité au micro de Jacques Chancel en 72.
Victor Hugo était un fou qui se prenait pour Victor Hugo. Eh bien moi, je suis peut-être quelqu'un de raisonnable qui ne se prend pas pour Charles Trenet, justement. Je m'oublie très facilement, et bien souvent, ça m'a valu des petits déboires, parce que si je m'étais rappelé que j'étais Charles Trenet, je ne l'aurais pas... fait les bêtises que j'ai faites, parce que je me conduisais absolument comme un gamin, parce que j'avais oublié complètement et mon personnage et même mon moi profond. J'étais le garçon de la dernière minute, comme ça. Et j'aime bien être comme ça aussi, c'est un peu ma nature aussi, vous savez. Alors heureusement qu'il y a de temps en temps des gens qui me rappellent à l'ordre, qui me disent « mais enfin, vous êtes Charles Trenet, tout de même, etc. »
Alors, est-ce que vous vous prenez pour Benjamin Biolay ou est-ce que vous vous oubliez parfois?
Non, je ne me prends pas pour lui. Moi, je vois bien ce qu'il veut dire Charles Trenet. Je vois bien aussi quelle bêtise il fait référence. Et j'aime bien son ton suranné, très vieille France, qui en fait cache quelqu'un de très punk, de très moderne. Je me rappelle de cette interview en slip rouge avec Daniel Gilbert, des choses comme ça. Donc, c'est un personnage. Et surtout, il a cette qualité qu'on n'a plus beaucoup aujourd'hui, malheureusement, c'est de dire la vérité. Et c'est la vérité toute crue, là, qui vous livre. Et c'est émouvant, je trouve.
Quelques mots, quand même, de plus sur Charles Trenet, parce que...
Ah, c'est une de mes idoles.
Vous avez consacré un album entier de reprises. Pourquoi, à ce point, votre idole?
Ben, j'ai mis du temps à l'aimer, parce que c'est quelqu'un qui me faisait un peu peur quand j'étais petit. Mais je me rendais compte que ses chansons me transperçaient le cœur, quoi. J'écoutais Coin de rue, tout ça, ça me faisait un effet fou. Et puis je l'ai rencontré aussi, et j'étais très impressionné de l'avoir rencontré. Et de temps en temps, comme ça, je chantais des chansons de Trenet, et on m'a dit souvent, tu devrais faire un disque de ça. Tout le monde, en a besoin, parce que plus personne n'écoute René, il a très mauvaise presse, il a finalement, de tous les grands génies disparus, c'est lui finalement qui s'en sort le moins bien. Et moi, rien qu'en le disant, ça me rend fou, parce que c'est un des plus beaux.
Alors, vous lui avez rendu hommage d'ailleurs dès ce premier album qu'on évoquait, c'était le morceau Un été sans la côte. Mais on va revenir un peu sur les années précédentes quand même, pour savoir comment vous êtes devenu le musicien que vous êtes. Alors, un père qui écoutait Chopin à fond, une mère qui vous surprend en écoutant Gainsbourg, l'impression que vous aviez un magazine porno dans les mains quasiment. Mais la musique classique va tout de même vous sauver, parce que à 6 ans, vous commencez par le violon, puis après, avec la rencontre de Michel Becquet, vous mettez le trombone à coulisses et vous quittez Villefranche-sur-Saône pour Lyon et son conservatoire de musique. Vous quittez la maison familiale et la vie commence là, Benjamin Biolay.
Bien sûr, oui, la vie commence vers 14-15 ans, quand je découvre un peu déjà la ville de Lyon, pas seulement, et aussi le conservatoire supérieur de musique, enfin le conservatoire, me rendre compte de l'exigence que ça implique, mais aussi des tranches de vie extraordinaires que ça permet. Et puis très vite, on fait ce qu'on appelle des cachetons, donc je jouais avec d'autres artistes, etc. C'est sans doute mes plus belles années quand j'y pense, en fait, ces années-là.
Vraiment ?
Ah ouais, c'est vraiment une belle initiation et vraiment baigné de musique, quoi. Je jouais beaucoup avec beaucoup de gens différents et c'est quand même ce que je préfère dans la vie.
Dans ces années-là aussi, je crois, vous découvrez le White Album des Beatles. Là, c'est une autre révélation, une autre forme de révélation.
Oui, c'est plus jeune même, le White Album des Beatles, ouais.
Et là, vous vous dites, moi, je veux faire ça aussi.
Moi, ouais, j'étais subjugué. Ouais, non, j'étais subjugué en écoutant ça, quoi. Et j'ai eu tout de suite un coup de cœur difficile à expliquer pour John Lennon. Vraiment, je me suis senti pas proche de lui, parce que je pourrais jamais me comparer à un génie comme lui. Mais j'ai senti des. Je me suis dit, ça aurait été mon pote, lui. Peut-être qu'il aurait été compliqué comme copain, mais je l'aime vraiment, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il chante. Ouais, j'ai de l'amour pour ce type-là.
Alors, des potes, il y en aura d'autres, puisque, bon, après un premier prix de trombone, quand même, au conservatoire, vous commencez donc à chanter dans les bars. Pas toujours facile, mais bonne école, ça aussi.
Super école, ouais. Et puis, c'est compliqué quand. En fait, ce qui est compliqué, c'est de chanter ses compositions dans les bars. Chanter ses chansons originales. Et du coup, faut être un peu malin, faut être capable de chanter le monde entier un cactus quand les gens commencent à en avoir marre, quoi. Ce qui est toujours un plaisir, en plus.
En plus.
Donc, je prenais des trucs de Dutron, des trucs comme ça, et ça passait très bien.
Et là, rencontre bien réelle avec Hubert Mounier. Rencontre importante pour vous ?
Une rencontre primordiale, rencontre fondatrice, rencontre. La rencontre de ma vie musicale, si je parle de l'aspect pop musique, quoi. Enfin. Déjà, ça a été un coup de foudre amical. C'est quelqu'un dont j'étais très proche, y compris au niveau des goûts, des choses comme ça, même de la personnalité, de la façon de vivre, de la façon de concevoir la politique, la société, plein de choses. Et il m'a donné beaucoup confiance en moi. Et en plus, ça a été tout de suite un échange. Il m'a dit, moi, je veux bien t'aider, mais il faut que tu m'aides aussi, quoi. Tu vois, je galère sur des chansons, il y a des trucs. Donc, il m'a tout de suite beaucoup valorisé, Hubert.
Il vous a vraiment... donner l'élan qu'il fallait.
Ouais, donner, et pas que l'élan, ouais. il m'a permis de découvrir ce que c'est sur le tas, quoi, vraiment, de travailler avec lui en studio très vite, et c'était un peu vertigineux pour moi. Je réalisais que les chansons sur lesquelles on travaillait, elles allaient passer à la radio, tout ça, que c'était plus du tout le.
Plus les bars.
L'amateurisme des bars et des magnétoquatre pistes, ouais.
Alors, à propos de chansons qui passent à la radio, on va quand même marquer un temps pour écouter un extrait de l'album Sinclair. C'est évidemment toujours délicat de choisir un morceau. Bon, l'album existe depuis un certain temps, donc ça va, les gens l'ont, je l'imagine, écouté de A à Z. Alors, j'ai choisi. Bon, il faut bien choisir Saint-Germain. Mais avant de l'écouter, j'aimerais bien savoir comment elle est née, cette chanson. Ça commence comment pour vous ?
Par une mélodie, piano-voix et.
Piano-voix sans parole d'abord ?
Non, en yaourt, ouais, on dirait, on l'a. Dans ces cas-là, on entend que je suis un fan de John Lennon, par exemple, sur une chanson comme ça. Quand je l'ai fait en yaourt, dans ce fou anglais qui veut rien dire. Et puis après, j'essaie de me rappeler à ce que ça m'évoque, quel sentiment m'évoque cette chanson, pourquoi je l'ai composée comme ça, pourquoi. Et je fais le texte à partir de ça, mais c'est un moment de. Où on dompte un peu des accords, une mélodie, des choses, et puis ça se transforme en chanson. C'est assez merveilleux, c'est assez. Et en fait, le moment clé, on l'oublie. Le moment où c'est plus quelqu'un qui fait une espèce de bœuf pourri sur son piano, mais ça devient une chanson. Là, on se retrouve happé dans un moment une sorte de couloir complètement abstrait et où tout est sans temporalité réelle. Mmh. Et peut-être ça m'a pris 12 heures, peut-être que je l'ai fait en 20 minutes, mais on peut pas trop se rappeler, je trouve.
Écoutons Saint-Germain. Saint-Germain, extrait de l'album Sinclair de notre invité Benjamin Biolay. Alors, je ne vais pas refaire toute la discographie, mais rappelez qu'il y avait déjà eu un groupe avec Matteo Gallien, un premier single en solo, La Révolution, 97. Alors ensuite, vous avez écrit avec Karen Anne son premier album, puis avec elle, plusieurs chansons pour Henri Salvador, parmi lesquelles Jardin d'hiver. L'année suivante, donc, elle a évoqué le premier album de Benjamin Biolay en studio, Rose Kennedy. Il y en a eu 9 autres depuis. Ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est de savoir comment les artistes concrètement travaillent. Et peut-être que ça change évidemment avec les années. Avant de vous poser ces questions, écoutez Kerenan, qui était mon invité au mois de juin dernier.
au début d'une carrière, quand on écrit des premières dizaines, aux vingtaines, aux trentaines de chansons, il y a quelque chose de très intuitif. Et puis finalement, ça devient peut-être pas laborieux au sens transpiration, mais laborieux au sens où il faut vraiment être créatif entre telle heure et telle heure pour pouvoir écrire et être créatif d'un point de vue arrangement et idées sonores quand on est en studio et créatif quand on fait de la scène. On n'a pas le choix, on optimise le temps et on a besoin d'écrire à tel moment. Donc on choisit des créneaux horaires et on choisit des ambiances sonores qui permettent justement de raconter, d'écrire. Et voilà, et on met de plus en plus de temps à écrire parce que je pense qu'on est, et d'un point de vue sonore et d'un point de vue contenu, à la recherche de quelque chose de plus en plus authentique.
Plusieurs choses alors à dire à propos de cet entretien avec Kerenan. D'abord, concernant l'évolution de votre pratique, Benjamin Violet, est-ce que vous constatez comme elle que c'est plus laborieux, pas au sens de la sueur, mais que ça prend plus de temps d'écrire ?
Non, pas forcément, mais d'y songer, oui. Quand on s'y met, quand on va vraiment à l'atelier, en gros, peut-être ça prend pas forcément plus de temps. Mais c'est les fantasmes qui sont moins nombreux, c'est... On a fait déjà beaucoup de chansons, donc on... Mais de toute façon, Kerenan et moi, on est très très proches, et je vois très bien où elle veut en venir dans cette sentence, et je vois bien la façon dont elle organise aussi sa vie musicale. Moi, je suis plus chaotique qu'elle, c'est quelqu'un de plus organisé que moi.
Non, mais il y a une maturation, par contre, plus longue des morceaux, pour vous ? Vous dites quand on arrive dans l'atelier, bon, il se passe des choses, mais avant...
Ça dépend des morceaux. Effectivement, si c'est un morceau qui est assez original par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, ça va aller plus vite. Si c'est une balade, par exemple celle qu'on vient d'entendre, oui, ça peut être compliqué finalement de l'agencer de manière satisfaisante avec le temps, parce qu'on connaît beaucoup de choses.
Dans cette même émission, Kerenan parlait de son rapport aux instruments, elle parlait des guitares qu'elle avait vendues beaucoup parce qu'elles avaient plus de vie avec elle. Elle racontait cela en disant qu'elle les amenait plus en tournée, donc il fallait pouvoir laisser la place à d'autres instruments. Quel rapport vous avez aux instruments ?
Elle a sa vieille guitare de toujours avec l'autocollant pourri sur laquelle on a écrit des chansons quand on était jeune. Donc
Ouais, mais il faut du sang neuf, disait-elle. En
ouais, gros. Je suis d'accord. Et puis à part ces objets qui sont un peu des
fétiches, quoi.
Oui, exactement, quoi. Ouais. Il faut pas avoir trop d'affect sur les instruments, les choses comme ça. Moi, je trouve, quoi, c'est une façon de rester libre, parce que la musique, sinon, c'est une sorte de muse qui peut vous enfermer dans un quotidien très redondant et qui rend presque fou, quoi. Donc, mais je vois ce qu'elle veut dire quand la guitare est rincée, je l'oublie un moment et puis je la reprends plus tard, mais je vois ce qu'elle veut dire.
Oui, il faut la mettre en jachère un petit peu. Mais à propos de guitare, vous parliez tout à l'heure de l'écriture du morceau Saint-Germain. Au piano.
Oui, c'est au piano. Ouais.
Sauf que donc, on a entendu le morceau, c'est la guitare qui prend la place. Ouais, Qu'est-ce qui fait que ça passe d'un instrument à un autre ?
Oh, ça va très vite, c'est des choses qu'on peut essayer aussi. Quoi. On est en studio, c'est une espèce de piano-voix avec une batterie. Et puis à un moment, moi je suis à la console, je demande à un guitariste quand même de faire un accompagnement. Puis je coupe le piano et je me dis en fait, je suis surpris parce que je ne l'ai pas composé comme ça la chanson. Ouais, c'est une façon aussi de... Ouais, c'est vraiment la vie de l'atelier, quoi, d'essayer des choses comme ça. Souvent, on enregistre des trucs pour rien. Il m'est déjà arrivé d'enregistrer des 70 cordes que j'ouvre pas, ou alors juste sur un pont, ou des choses comme ça. Parce qu'on sait pas, c'est quand même bon de se laisser aller à l'aventure, même avec le temps, sinon on fait des choses trop... Moi, en tous les cas, quand je rentre en studio, je sais pas comment je vais faire sonner les chansons. J'ai plus envie de savoir.
Mais est-ce qu'il y a des chansons, ou en tout cas des bribes de mélodies qui, à un moment donné, n'aboutissent pas et que vous allez rechercher parfois quand
Elles vont revenir.
Ouais.
C'est pas la démarche ne consiste pas à les chercher. Mais à un moment, on a un truc qui revient là et on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc déjà ? Est-ce que c'est une chanson d'un autre ? Ou est-ce que c'est pas un machin qui traîne depuis des années ? Et les chansons, elles s'accrochent, c'est incroyable. Elles ont une envie de vivre qui est plus forte que l'envie qu'on a de leur donner vie, en fait.
Pour qu'elles reviennent à ce moment-là.
Elles sont rares, mais elles sont costauds, celles-ci.
Vous avez un exemple en tête ?
Il y en a une sur le dernier album. C'était une espèce de mélodie qui tournait depuis toujours. Je me suis dit, allez, on va la faire, parce que sinon, elle va trop me faire chier, celle-là. Elle ne me lâche jamais. Et oui, c'est vrai.
Puis la musique, Benjamin Biolay se renouvelle aussi, disons, par l'extérieur, comme on a pu le voir avec l'album Volver, par exemple, pour votre amour pour l'Amérique latine, singulièrement l'Argentine. sauf peut-être si elle est en finale de la Coupe du Monde contre la France.
On n'en parlons pas, c'est trop compliqué. Pour
c'est trop douloureux. Mais vraiment, pour rester sérieux, il y a là des vibrations qui viennent d'ailleurs et qui que vous incorporez.
Ouais, c'est incroyable. L'aventure où on part en immersion dans un pays comme ça, avec des musiciens qu'on connaît pas et des studios qu'on connaît pas, et finalement de voir que la musique est vraiment un langage, c'est un des langages privilégiés des humains, en fait. Ouais. C'est très enrichissant. C'est des expériences fortes, c'est très dur à faire, en vérité, parce qu'il y a toujours un moment où on est complètement perdu, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Et si on s'accroche, on arrive à faire des choses qui sont absolument extraordinaires, c'est-à-dire de mélanger comme ça sa propre culture et celle d'autres musiciens ou d'autres interprètes, et j'ai hâte de refaire ce genre d'expérience. Mais il faut être bien dans ses pompes et il faut pas être stressé.
Mais il y a d'autres coins du monde qui vous donnent cette envie-là?
Ça fait longtemps que j'ai envie d'aller au Brésil, parce que j'aime beaucoup la scène actuelle Brésil. J'ai pas envie de faire un album de bossa nova, j'aime beaucoup la bossa nova, mais il y a tellement de musiciens que j'adore dans ce pays que j'ai très envie d'aller y enregistrer, ouais.
Et puis il y a aussi les sillons creusés, une forme de cohérence. Sinclair, on peut évidemment le voir comme un prolongement de Grand Prix, l'album précédent. Alors bon, même musicien, mais même énergie, peut-être même augmentée sans doute, peut-être par la tournée.
Je pense augmentée par la dynamique et l'hygiène de tournée. C'est comme en tournée, on se met à jouer vraiment très bien, à jouer de manière très précise et de manière très primitive presque. Il y a un moment, on joue bien, même si on n'est pas concentré. Il ne peut pas se passer grand-chose de...
C'est quelque chose dans le corps qui agit.
C'est le corps qui prend le relais. Quoi. Mmh. Il y a un moment... De toute façon, c'est le seul moyen de chanter bien ces chansons, par exemple, c'est de les connaître physiquement. Mmh. C'est un moment toujours assez terrible quand vous sortez un album et que vous le répétez pour la première fois et que vous réalisez qu'en fait, vous l'avez chanté juste une fois, cette chanson, à 3h du mat, un soir, dans un état un peu, pas second, mais un peu possédé par la musique. Et qu'en fait, vous savez pas comment ça se chante, vous savez pas où il faut respirer, vous savez pas si c'est de la voix de tête, de la voix de poitrine. Et c'est décontenancant de se dire, je connais pas physiquement ma chanson. Et c'est le moment où on les connaît bien, qu'on sait que là, il faut toujours être très concentré et avoir envie de faire bien. Mais il peut pas vous arriver grand chose, quoi.
Mais ce groupe qui s'est formé avec Grand Prix, qu'on retrouve dans Sinclair, est-ce qu'il a changé aussi, Benjamin Violet, votre façon de chanter, voire d'écrire pour... cet album?
D'écrire, de composer, non, mais de chanter fatalement. Il y a un moment quand il y a un groupe et qu'il y a un son qui arrive et qui est plus massif, par exemple, que ce qu'on imaginait, il faut timbrer la voix. Mais après, c'est l'instrumentiste qui chante aussi. Quand vous entendez des sons, vous allez bien voir que si vous chantez comme je chantais sur le premier album, ce que j'aime encore faire, murmurer, chanter tout doucement, ça va pas passer.
Ça passe pas. Il faut passer le mur du son.
Ouais, faut y aller, ouais.
Mais ça change pas même les mots aussi? Il y a plus de percutantes, enfin des choses très techniques presque?
C'est plutôt l'écriture qui va changer les mots, quoi. Que la façon dont les garçons ou les filles jouent le titre, je trouve. Plus la composition, je veux dire, la composition en elle-même. Le moment où on fait les accords, la rythmique et le truc, qu'on trouve la mélodie. Il y a des moments où on se dit, c'est pas la peine de chercher midi à 14h et de va falloir éviter les allégories, les métaphores et tout, va falloir rentrer dedans.
Tout droit.
Ouais.
C'est comme ça qu'on l'entend. Mais j'ai dit aussi, vous êtes à l'affiche de Stella est amoureuse. Moi, j'aime beaucoup tout le cinéma de Sylvie Vérel, donc je suis ravi de voir la suite des aventures de Stella. Ce sont un peu ses aventures, mais donc elle est sortie aujourd'hui.
Non, c'est un biopic de Sylvie Vérel, en fait. C'est ça qui est merveilleux. C'est l'adolescente. Elle représente vraiment l'adolescente des années 80, mais qui en plus a la charge d'être un transfuge de classe, en vérité. Donc c'est ultra intéressant ce qu'elle raconte, c'est très vrai. Et c'est moi, qui viens du même milieu qu'elle, ces deux films me bouleversent.
Ouais. Il faudrait que j'invite un jour le comédien Benjamin Biolay, parce que là, on parle beaucoup de musique, mais la question, est-ce que jouer la comédie, on vous voit de plus en plus régulièrement au cinéma, et c'est tant mieux, est-ce que ça modifie l'interprétation pour le chanteur?
Pas le chant en soi-même, mais la façon dont on agence tout ça en tant que chanteur sur une scène, je pense. Il ne me viendrait plus l'idée de tourner le dos au public, ce que je faisais quand j'étais jeune. Pas du tout pour être narquois, mais s'il y a un moment, je me sentais tellement comme un lapin dans les phares que j'avais besoin de m'isoler dans un coin du plateau où j'étais. Aujourd'hui, je suis moins dans le jugement de ma propre personne ou de ma propre attitude physique. Faut accepter d'avoir des tics quand on chante. de faire des trucs bizarres avec son corps, avec son micro, son truc. Ça permet de moins se cacher.
Et la position, on va dire, presque médiane, jouer la comédie sur scène, le théâtre?
Jamais, jamais.
Je sais bien, mais vous n'en auriez pas l'envie?
J'ai pas l'impression que j'en aurais envie. Ouais, j'ai pas l'impression que ça m'apporterait quelque chose qui manque à ma vie. Le plaisir de la scène, je l'ai. Le plaisir de jouer, je l'ai. Et puis, j'ai commencé de manière autodidacte au cinéma, donc je suis un acteur de cinéma, donc c'est plus minimal que sur une grande scène de théâtre. Et tout, ouais.
Bon, on verra bien.
On verra, de toute façon.
Ouais, la vie est longue. On le souhaite. Votre actualité, c'est cette version augmentée de Chant de Noël de l'album Sinclair, le Christmas Show enregistré au Casino de Paris qui sera diffusé sur Canal+. Alors, bon, les anglo-saxons sont friands, coutumiers des albums de Noël. C'est beaucoup plus risqué de ce côté-ci de la Manche ou de l'Atlantique. Est-ce que c'était aussi cette forme de défi?
Non, j'ai rêvé de ça depuis très longtemps. Ouais, voilà, c'est tout.
C'est un vieux rêve.
Ouais, c'est un vieux rêve. C'est un truc que j'ai toujours aimé chez les Beatles, dont je suis un grand fan. À Noël, ils sortaient toujours des choses originales pour leur fan club. Et vraiment, j'ai toujours aimé les disques, les compiles de Noël. J'ai toujours aimé quand Sinatra chante Noël. J'ai toujours aimé quand Dean Martin, Nat King Cole, le Christmas Song. C'est une des chansons que je préfère au monde. Les chansons parlent à peu près toutes du même sujet, mais elles sont magnifiques. Il y a des gens qui ont écrit des petits bijoux et j'avais envie aussi d'inviter des gens à chanter ces sublimes chansons de Noël, je trouve. Quoi.
Alors, on va écouter une composition originale signée Benjamin Biolay, c'est « Automne-hiver ».
Le boulevard, les cyclos, les voitures, le brouillard fait chuter le mercure. C'est l'automne, dit le son des tours, l'automne de l'amour. Le silence en dernier sortilège, en cadence je vois tomber la neige. C'est l'hiver, le froid qui rend sourd, l'hiver de l'amour. Hier encore j'étais dans tes bras chauds, j'étais privilégié, je sais. Pris de remords, je suis trop de conneries, j'ai fait. C'est l'automne et bientôt le tour de l'hiver de l'amour. Les pigeons, les poulets en descente. Sur mes joues, ce froid qui rend con, c'est l'hiver pour de bon.
Obligatoirement. Deux compositions signées Benjamin Biolay dans ses bonus Noël. Alors là, pour le coup, il y a un motif, il y a un thème. Alors, vous avez largement abordé de biais par moment. On va dire que la deuxième chanson n'est pas très noëllement correcte. Celle-ci aussi, on l'a peut-être entendue. Mais il faut se mettre dans quel état d'esprit alors pour écrire ces morceaux-là?
Faut être à l'intérieur de soi, je sais pas comment dire ça, faut vraiment... C'est ce moment où on compose, où on redevient la personne qu'on a toujours été, guitare ou piano en main, et c'est des flashbacks, des flash-forwards, des choses comme ça, c'est vraiment... C'est quelque chose de très intime, c'est une quête intime, très compliquée à décrire en vérité. Quoi. Là, j'ai aucune idée, aucun souvenir par exemple.
Ah ouais ?
Non.
Vous savez pas d'où vient cette chanson ?
Non, j'imagine que j'ai gratté ce thème à la guitare d'abord, et que j'ai dû le trouver très hivernal ou très automnal, et puis que, bêtement, j'ai fait un texte très à premier degré, enfin je présume. Non, par rapport à l'effet que ça me faisait. Après, j'essaie toujours de trouver une histoire à raconter ou des... Mais là, oui, je pense que j'ai fait ce thème à la guitare classique, ça c'est sûr, parce que je l'entends. Mais non, c'est des moments qu'on oublie.
Que vous oubliez, en tout cas. Bon ben.
Ouh, je connais beaucoup de gens qui... Mais parfois, on est témoin de l'écriture d'une chanson, et la personne en parle, elle raconte n'importe quoi. On a envie de dire, mais pas du tout, t'étais pas là, t'étais sans... Enfin non, non vraiment, on oublie.
Comment est-ce que vous avez choisi les autres morceaux de ce bonus Noël ?
Bah, j'ai pris les quatre morceaux que j'aimais bien mais que j'avais pas pu mettre sur l'album parce qu'il allait être trop long de toute façon. Même techniquement, je crois que c'était pas possible, c'était trop long pour un compact disque. Et puis, donc il y a quatre chansons qui devaient être sur l'album, dont une reprise de Jolie Louise de Daniel Lanois que j'aime beaucoup. Et puis j'ai mis deux chansons de Noël qui sont enregistrées en live à l'occasion du show parce que je trouvais ça quand même marrant de... Bah, c'est rare qu'on puisse faire des choses de... rapide en musique, ça, il y a toujours une latence folle, le temps de fabriquer les trucs, d'envoyer les trucs à l'usine. Là, sortir des trucs de Noël à Noël, c'est impossible de pas profiter de l'opportunité, je trouve.
C'est sûr. Show, dites-vous, on le découvrira, nous, sur Canal+.
Il y aura un mot moins générique que spectacle, je dirais volontiers spectacle, mais c'est pas un spectacle de fin d'année, quoi.
Christmas show, voilà, ça existe en tant que tel, ça veut dire que y a pas, c'est pas qu'un récital.
Non, puis il y a plein de chanteurs et chanteuses extraordinaires, et puis j'anime un peu la soirée à ma façon, hein. je suis pas un grand orateur, mais puis il y a des petits sketchs, des petits... Oui, c'est moi et mes amis, quoi, à Noël.
Et vous aimeriez y recommencer chaque Noël
pas. Pas tous les ans non plus, je vais pas le dire Monsieur Noël, mais...
La relève est là, Tino Rossi, le retour.
En tous les cas, on n'a pas fait encore toutes les... Dans ce show, il y a beaucoup de chansons, mais il n'y a pas toutes les chansons que j'aime, c'était impossible.
Donc il y a encore de la marge. Mais à propos de continuer, c'est une question qui m'arrive quand même de poser à certains artistes qu'on reçoit, cinéastes, peintres ou autres. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'il y a un autre album après l'album d'avant ? Qu'est-ce qui fait que ça continue ? Est-ce que vous pouvez imaginer, Benjamin Biolay, qu'un jour ça s'arrête ?
Oui. Oui, je sais qu'un jour ça va me tomber dessus, mais je pense que c'est quelque chose de très, pareil, très compliqué à décrire. À un moment, la source se tarit fatalement, et je pense qu'il faut arrêter de descendre à un moment, laisser en jachère, comme vous disiez tout à l'heure à propos d'autre chose. Et pas, en fait, il ne faut pas forcer. Dès qu'on force la créativité ou l'expression artistique, je pense que c'est le public s'en rend compte immédiatement et vous tourne le dos. Ça paraît très cruel, mais c'est comme ça, la vie est pas...
Mais ce possible assèchement, vous en parlez comme d'une crainte, comme d'une fatalité ?
Non.
Ça vous empêchera pas de continuer à vous exprimer par d'autres moyens ?
J'imagine, oui.
Le cinéma, peut-être le théâtre.
Par exemple, c'est une chance incroyable de savoir jouer la comédie, de... Enfin, en tous les cas, d'apprendre à jouer la comédie et de j'ai l'impression de savoir le faire parce que souvent je suis entouré d'acteurs extraordinaires, moi aussi. Donc,
non, je confirme que vous ne dépariez pas.
Mais je suis pas très anxieux par rapport à ça. Puis maintenant, j'ai 50 ans.
Félicitations.
La musique a été, merci beaucoup. La musique, ça, c'est d'ores et déjà une très belle tranche de vie, quoi. J'en suis très content, très, très honoré, très fier et très reconnaissant d'avoir pu faire ça. Donc si ça devait devenir plus rare ou moins facile, eh bien ce serait pas un drame en ce qui me concerne.
Ce qui vous manquerait, ce serait quoi là ? Justement la créativité, le concert ?
Le concert et ce fameux atelier dont je parle, ce plaisir de fabriquer quelque chose. Je pense que j'aurais besoin de fabriquer quelque chose par contre. J'imagine, pas forcément quelque chose d'artistique quoi, mais j'aurais besoin de fabriquer. J'aime... consacrer mon temps à fabriquer des trucs qui n'existent pas encore, même si c'est naïf, hein, c'est une chanson, c'est un... J'aurais besoin de ça, je crois.
Et l'écriture, autre que celle des chansons, c'est quelque chose qui existe déjà secrètement.
J'ai perdu ce... Je trouve que j'écrivais mieux quand j'étais jeune. J'ai déjà fait des tentatives de nouvelles, de choses comme ça. Mon écriture, c'est vraiment recentré sur les chansons. Je suis devenu parolier. Tout est plus synthétique. Tout est. Il faudrait vraiment le faire sans.
Du coup, ça empêche la forme.
Oui, je trouve. Ouais, pour vous. C'est tout est tout. On a une obligation de concision qui, moi, comme lecteur, me plairait pas d'ailleurs. Moi, j'aime quand on m'embarque un peu dans des circonvolutions inattendues et qu'à la fin de la phrase arrive la lumière, quoi. Donc, c'est très différent.
Et puisqu'on arrive au terme de cet entretien, Benjamin Biolay, si la musique s'arrêtait, bon, on souhaite qu'elle s'arrête pas, la comédie continuera, mais dans, je sais pas, 50 ans, 100 ans, vous préférez qu'on repense à Benjamin Biolay musicien ou comédien?
Mon tape complet. Vraiment, je vous mens pas, je m'en fiche complètement. J'espère que les arrière-petits-enfants diront que je sais pas quoi, j'étais sympa ou je sais pas quoi, ou que moi, ce que j'aimerais, c'est laisser une maison de famille, un truc comme ça. C'est vraiment le but de ma vie. Mais que les gens parlent de moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement, quoi.
Ouais, moi, j'étais très heureux de vous parler, vivant, ce soir. Ouais. Il me reste à rappeler que cette version augmentée, qui est dite de minuit, vient de sortir de votre album Sinclair. Et puis qu'il y a le Christmas Show qui arrive sur Canal+. Et puis, allez voir le film de Sylvie Vérède, Stella est amoureuse, sorti aujourd'hui.
Et allez voir Corsage aussi, on en parlait tout à l'heure.
Et Corsage.
C'est merveilleux. Avec mon actrice préférée, je crois, Vicky Krieps. Et effectivement, Camille a fait une musique splendide. Je le sais parce que j'étais au jury à Un Certain Regard à Cannes et j'ai eu l'occasion de voir ce film. Voilà.
On en parle avec elle dans quelques minutes. Merci Benjamin Biolay d'avoir été notre invité.
Merci.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
C'est l'heure d'Affaires critiques. Bonsoir Lucille Como.
Bonsoir Arnaud.
À votre grand bonheur, comme on va s'en rendre compte, vous avez donc vu Avatar 2, ou Avatar 2, de James Cameron, qui est sorti aujourd'hui sur les grands écrans.
Oui, et vous pouvez me remercier, Arnaud, d'avoir subi ces quelques 3h12 d'une pénibilité rarement égalée, je crois, dans ma vie de spectatrice. Alors Avatar, vous vous souvenez, mais en fait vous vous souvenez pas parce que vous l'avez pas vu.
Voilà.
Voilà, bon, alors je vais vous raconter. Le premier était sorti en 2009, en 3D. C'était l'histoire d'une mission en 2154 menée par les humains sur une planète lointaine, Pandora, planète aux ressources naturelles multiples et quasi magiques, et habitée par de grandes créatures bleues nommées Navis, sur laquelle se retrouvaient à la fois des scientifiques fascinés par la culture locale et de très méchants colons déterminés à piller la planète en se fichant bien de ses habitants. Tous américains, bien sûr. Parmi eux se trouvait un certain Jake Sully, ancien marine paralysé des deux jambes, qui, remplaçant au dernier moment un frère jumeau décédé, se voyait accorder le privilège d'avoir un avatar et donc d'évoluer sur la planète Pandora sous la forme d'un autochtone. Il tombait amoureux de la princesse locale et de la planète tout entière et décidait donc finalement d'y rester, non sans avoir combattu les méchants pilleurs. Ça, c'est le 1. J'ai fait la grave erreur, en tant que bon élève, de le revoir quelques jours avant la projection du 2, ce qui m'a permis de constater que ce deuxième opus racontait exactement la même chose et de m'ennuyer sans doute davantage. C'est en effet un film qui repose sur les acquis, à mon avis déjà fragiles, de son premier succès. Apparemment, Cameron a décidé que ce n'était pas nécessaire d'imaginer un nouveau récit. Certaines séquences sont donc exactement les mêmes. On remplace juste un hélico par un bateau ou un rhinocéros par une baleine et hop, le tour est joué. De la même manière, apparemment, la fable écologique, remarquée car plutôt nouvelle dans le blockbuster hollywoodien en 2009, suffit à faire discours dans le 2. On pleurniche de rechef le vivant avec l'aplomb des pionniers sans se donner la peine de réactualiser un quelconque substrat politique et idéologique.
Mais bon, le 2, il raconte quelque chose alors, quand même.
Alors, qu'est-ce qu'il raconte le 2? On retrouve sur Pandora Jake Sully, le fameux Jake, et son épouse. Ils sont devenus rois de leur peuple, ce sont de très bons rois, parce qu'en plus de leur culture Navi, ils ont intégré des éléments de la technologie humaine. Ils ont eu 4 enfants. Les garçons chassent, les filles font des perles et la cuisine, tout va donc super bien. Quand les méchants décident de réenvahir la planète, parce que bon, ça les a un peu déçus la dernière fois de ne pas y arriver. On découvre donc, ça c'est vraiment très ridicule, que le très méchant du 1, le colonel Quaritch, avant de mourir, avait légué son patrimoine génétique et qu'il revit donc sous la forme d'un avatar bien décidé à se venger et donc à exterminer Sully et sa famille. Les voici donc contraints de fuir dans une autre région de la planète, une région aquatique peuplée de pêcheurs dont la culture n'est pas la même. Alors il y a de jolis poissons. Des petites méduses qui brillent dans les reflets de l'eau, de gentils cachalots magiques. L'option folklorique qui regardait dans le premier opus plutôt vers l'Afrique centrale ou l'Amazonie se décale maintenant vers la Caraïbe et l'océan Pacifique, avec cette impression renforcée que ça reste un film sur des Occidentaux hein, qui déséquilibrent d'autres cultures en leur imposant leur schéma de pensée. Jake Sully, que le premier film montrait vulnérable et perturbé par le contact avec une culture nouvelle, est... en tant que Navi, paradoxalement, plus que jamais un homme blanc occidental et hétérosexuel, qui exige que ses enfants l'appellent « sœur » comme à l'armée, gueule sur ses fils qui ne sont pas assez virils, impose sa puissance à tout le monde, les femmes, les enfants, les animaux et les chefs des autres tribus qui n'ont pas bien apparemment compris la vie. Le personnage de Neytiri, sa femme qui était un peu intéressante dans le premier opus, est réduite dans ce chapitre à une créature féminine bourrée d'instinct maternel, hein, bien sûr, prête à tout pour sauver ses petits. En bref, c'était bien la peine de galérer à comprendre Pandora, apprendre ses usages et sa langue, si c'est pour reproduire le fonctionnement de redneck texan en gueulant sur tout le monde en anglais. Je n'avais pas bien compris déjà hein, l'engouement de certains pour le premier, qui semblait y voir une belle fable progressiste. J'attends de voir comment ils vont défendre ce nouveau film, particulièrement réactionnaire à mon avis dans ses représentations et dans son esthétique. La forme regarde tellement vers l'arrière qu'elle semble faire du surplace, exactement comme le récit. La 3D épuise le regard et chaque séquence ne propose rien qu'on ait déjà vu. Créatures, bastons, paysages, échouant aussi au jeu du grand spectacle.
Eh bien ce soir, Lucille Comeau vous a fait économiser 3h12 de votre vie. Merci Lucille.
De rien.
Ce soir, ma chère Marie Sorbier, avec Affaires en cours, que nous préparez-vous? D'abord, je vous dis bonsoir quand
mais
même.
Oui, bonsoir.
Mais oui, parce que
mais c'est Lucille
c'est
qui
nous Avatar,
c'est moi, je vous perturbe avec mes histoires.
Qui nous a perturbés.
C'est trop compliqué. Bah oui.
Bon, les films, c'est une chose, les bandes originales en sont une autre, et c'est ce soir ce qui vous intéresse.
Oui, longtemps considérées comme secondaires, autant dans la création cinématographique que dans la création musicale, les bandes originales ont trouvé une juste place dans ces écosystèmes artistiques. On voit désormais se dessiner une histoire, avec ses styles et ses variations, et de grands compositeurs qui marquent nos oreilles et nos mémoires, d'Ennio Morricone à Michel Legrand, en passant par Vladimir Cosma ou Alexandre Desplat. Je suis allée retrouver Thierry Jousse pour en savoir plus sur l'histoire de la BO. Thierry Jousse, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes critique de cinéma, journaliste, vous présentez chaque samedi l'émission Ciné Tempo sur France Musique. À quel moment a-t-on commencé à considérer la musique comme un élément central du film ?
Ah bah pour les réalisateurs, ça fait longtemps, parce que malgré tout, je dirais depuis presque le début du parlant. Pour le, disons, un public plus global, j'ai l'impression que ça fait peut-être une vingtaine d'années que les choses ont évolué, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité plus grande à cette question. On voit ça à travers des, pas tellement à travers les projections des films qui sortent, mais surtout à travers les ciné-concerts, ce genre d'opérations qui mobilisent quand même un public assez important. Et on sent que la mémoire, la musique, c'est un marqueur de la mémoire, je pense, la musique de film en particulier, et ça joue beaucoup, notamment par exemple pour les compositeurs que vous avez cités dans votre introduction.
Vous dites que l'un des éléments prégnants de cette histoire est qu'elle est composée de couples, un cinéaste et un compositeur. Je pourrais mettre ça au féminin bien sûr, mais d'ailleurs pour nombre de réalisateurs, la puissance émotionnelle de la musique a été une crainte. Hein. Alors comment on équilibre image et son dans une création cinématographique ?
Ça c'est une alchimie à chaque fois renouvelée entre deux personnes. Et puis il y a une production aussi derrière, hein, surtout aux États-Unis où les studios hollywoodiens sont très puissants sur la question de la musique. Je pense que quand un réalisateur a trouvé ce qu'on peut appeler son alter ego musical, il n'a pas envie de le lâcher. Bon, il y a eu des ruptures, Hitchcock, Bernard Herrmann par exemple, hein, pour Le Rideau déchiré, mais enfin bon, prenons un exemple un peu plus contemporain, mettons Howard Shore et David Cronenberg par exemple, qui forment un couple extrêmement uni depuis 40 ans en fait, plus de 40 ans même. On voit bien qu'à un moment donné, le compositeur incarne d'une certaine certaine manière, musicalement, sonorement, l'univers du réalisateur, et il peut plus en séparer d'une certaine façon. Et puis c'est confortable, parce que vous le disiez, les réalisateurs ont souvent peur de la musique, de la force de la musique sur les images, hein, ça, c'est un fait. Et quand ils ont trouvé quelqu'un avec qui ils peuvent parler le même langage, avoir, disons, une relation fluide, ça leur permet de travailler très tôt, très en amont, et puis d'avoir effectivement le résultat qu'ils ont envie d'avoir. Donc c'est extrêmement précieux.
Est-ce que ce sont des combats, est-ce que ce sont des relations conflictuelles? Est-ce qu'il faut imposer la musique auprès d'un cinéaste?
Pas dans le cas des couples formés, parce que là je crois qu'il y a une pensée presque télépathique entre deux personnes, mais ça arrive, oui, ça arrive, bien sûr. Après, je pense que l'intelligence d'un compositeur, c'est parfois aussi de dire qu'il faut pas de musique sur certaines séquences, parce que la musique, elle va pas forcément être omniprésente pendant tout le film. Pour qu'elle ait justement un impact, il faut qu'elle soit placée au bon endroit. Donc oui, il y a des conflits, il y a des difficultés à certains moments. Parfois, les compositeurs se plaignent qu'on leur a enlevé un certain nombre de thèmes, mais souvent, ces décisions sont prise au service du film et pas de manière arbitraire. Donc ça, un compositeur peut tout à fait le comprendre à partir du moment où on lui explique clairement les choses.
Alors nous parlions de couple cinéaste-compositeur. Nous avons appris ce matin la mort d'Angelo Badalamenti, compositeur américain, alter ego de David Leitch. Quel couple il formait ces deux-là au cinéma ?
Ah, je crois un couple très uni, même si David Leitch a fini par devenir lui-même musicien. C'est vraiment à la fin de sa carrière, on pourrait dire. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Blue Velvet, puisque David Leitch avait invité, entre guillemets, Angelo Badalamenti, qui n'était pas du tout un musicien de cinéma à la base, plutôt un directeur musical de chanteuse. Il l'avait invité justement pour faire répéter Isabella Rossellini sur Blue Velvet, puis finalement il a fait toute la bande-son du film. Je crois que là, comme dans d'autres cas, David Leitch a trouvé son double, littéralement. Angelo Badalamenti a incarné ses fantasmes musicaux, et fantasmes, le mot est particulièrement, je crois, bien choisi pour David Leitch. Et voilà, et c'est vrai que même si David Leitch a mélangé parfois les musiques de Badalamenti avec d'autres thèmes, d'autres musiques préexistantes ou pas, ça a été quand même une relation extrêmement étroite entre les deux hommes.
Nous avons cité beaucoup de compositeurs masculins. Est-ce que c'est un métier qui est en voie de féminisation ?
En voie de féminisation, très relative encore, hein, parce qu'en gros, en France, on considère qu'il y a un peu moins de 10% hein, seulement, c'est très peu, hein, des bandes-sons qui sont composées par des femmes. Mais je pense que ça va beaucoup évoluer dans les années qui viennent, parce que il y a de plus en plus de jeunes compositrices qui sortent des conservatoires, qui même arrivent d'un peu partout. Et on sent que le mouvement est en train d'arriver. Alors ça va prendre quand même du temps hein, avant d'arriver à la parité, mais je suis quand même assez optimiste. Il y a l'exemple de Hildur Gunnarsdóttir qui a eu l'Oscar pour le film Joker, par exemple. Donc ça, c'est, il y a peu de femmes qui ont eu l'Oscar de la meilleure musique. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 seulement. Bon, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose. Si on se revoyait dans 20 ans, je pense qu'on verrait que la situation a probablement considérablement évolué.
Avant de se revoir dans 20 ans, vous venez de faire paraître une histoire illustrée de la musique au cinéma. Comment avez-vous pu faire un choix dans toute cette histoire? Parce qu'on l'a dit, alors l'histoire est récente et en même temps ancienne. Quand on publie ces ouvrages-là, tout est histoire de choix au final.
Oui, bah le choix se fait. Il y a des gens qui s'imposent naturellement. Je sais pas, John Williams, Bernard Herrmann, Ennio Morricone, pour prendre des compositeurs sur lesquels j'ai vraiment braqué les projecteurs. Bon, il y a des absences. Hein. J'aurais aimé parler de certains compositeurs français des années 50, par exemple Georges Auric ou Georges Van Paris, qui sont des compositeurs importants. Et les asiatiques sont pas beaucoup présents. Enfin, disons que j'ai essayé de donner une représentation qui me paraît à peu près correcte entre guillemets de ce qu'a été ce trajet, cette histoire de la musique au cinéma qui a été peu raconté au final. Bon, voilà, c'est des choix qui sont les miens hein, et qui peuvent être discutables. Pour l'instant, on m'a pas fait énormément de reproches à ce sujet, donc j'en conclus que j'ai dû à peu près réussir à donner un tableau, si ce n'est exhaustif du moins, qui correspond à quelque chose. Mais oui, c'est une intuition. Dans mon cas, c'est très intuitif, c'est-à-dire que je me fie à mon intuition. J'ai tort ou j'ai raison, je ne sais pas. Mais bon, voilà, en tout cas, pour l'instant, j'ai le sentiment d'avoir à peu près réussi à donner, disons, la vision de ce que pouvait être cette histoire.
Bande originale, une histoire illustrée de la musique au cinéma vient donc de paraître aux éditions EPA. Merci beaucoup Thierry Chousse.
Et ben merci Marie Sorbier.
Et merci à vous deux. Comme chaque soir, nous quittons ce studio, nous quittons Paris pour prendre des nouvelles d'artistes qui présentent leur travail un peu partout en France. C'est bien le cas ce soir. Nous sommes en ligne avec la musicienne-compositrice Camille. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors j'ai eu le plaisir de vous recevoir dans cette émission en juin 21 pour la sortie de votre premier long métrage, Comme un poisson dans l'air. Et c'est de cinéma que nous allons encore parler ce soir, puisque vous signez la bande originale de Corsage de Marie Kreutzer, un film qui retrace la vie d'Elisabeth d'Autriche, qu'on appelle un peu familièrement Sissi, incarné ici par Vicky Cripps, et à partir de son 40e anniversaire, le film est sorti ce jour en salle. Alors vous êtes éprouvé à l'exercice de la composition de bande originale, puisqu'avant Corsage, il y en a eu de nombreuses autres, J'irai où tu iras, J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd, Fever, pour citer que quelques films. Est-ce que c'est une façon pour vous, Camille, de décliner votre propre musique, ou au contraire, est-ce que c'est une façon de vous en éloigner pour mieux vous mettre au service des autres?
Ça peut être un terrain d'exploration, c'est-à-dire que je vais dans des endroits où je ne saurais pas aller pour mes propres chansons. Par exemple, pour le film de Géraldine Nakache que vous avez cité, J'irai où tu iras, j'ai fait des instrumentaux, par exemple. Il y a des chansons, mais il y a aussi des instrumentaux. Et ça, c'est pas quelque chose que je fais sur mes disques, par exemple. Après, c'est aussi une manière d'explorer des choses. Par exemple, le Fever, que vous avez cité, de Raphaël Neal, ça a été un peu un laboratoire pour mon disque suivant. Parce que sur ce film, j'ai exploré un peu le tambourvois. Et je l'ai revisité de manière plus pop dans mon disque Oui, qui a suivi quelques années plus tard. Et j'adore cette BO, d'ailleurs. J'aimerais beaucoup la sortir. Je crois qu'elle n'est pas sortie et je l'aime beaucoup.
Ben voilà une bonne idée. Bon, ouais. Ça, on le note déjà. Mais pour parler de Corsage, de Marie Kreutzer, qu'est-ce qui fait que vous vous embarquez dans une aventure comme celle-là? Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que c'est la rencontre avec la réalisatrice?
C'est vraiment une rencontre de femmes. Avec Marie, avec Sissi, avec Vicky Cripps, à distance, parce que l'Autriche était confinée au moment où Marie m'a contactée. Et donc, ça s'est fait par rencontre des inconscients, on va dire, des histoires des unes et des autres, et de ce qu'on ressent des unes et des autres. Marie voulait vraiment travailler avec moi. Elle a beaucoup insisté, parce que c'est tombé à une période où j'étais déjà engagée sur pas mal de projets. Et en fait, du coup, j'ai porté une attention particulière à son film et je me suis dit que c'était magnifique, c'est ce que ça racontait. Moi, ça me parlait complètement. Donc, il y a une grande résonance et puis vraiment beaucoup de motivation de la part de la réalisatrice, beaucoup de respect, beaucoup de connaissance de mon travail aussi, beaucoup d'intuition et de précision. Voilà, je l'ai aussi suivi, c'est elle qui m'a guidée aussi. Hein.
Alors, de quelle façon, justement, est-ce qu'elle vous a guidée? Qu'est-ce qu'elle vous a dit de ce qu'elle aimerait avoir comme bande originale?
Elle m'a parlé d'une chanson à moi. En fait, cette bande originale est comment dire, à moitié originale. Parce qu'elle m'a parlé d'une chanson à moi qui s'appelle She Was, qui est une chanson qui existe sur mon disque I Love You. Et elle m'a dit que ça lui semblait correspondre au film. Et c'est vrai que j'étais complètement d'accord avec elle. Et du coup, l'idée, ça a été de décliner cette chanson. C'est-à-dire que parfois c'est un guitare-voix, parfois c'est un guitare-voix orchestré, parfois c'est que l'orchestration, le tuba, le corps, les violons. À un moment, il y a un piano préparé. Mais c'est toujours les mêmes accords un peu lancinants qui parcourent le film comme ça. On peut pas dire que la chanson se construit au fur et à mesure, mais on va dire qu'elle donne le ton, puis elle se déconstruit, puis elle se révèle autrement, en creux, un peu comme le portrait qu'elle fait de Sissi dans le film, en fait.
Alors cette chanson, on l'entend à plusieurs reprises dans ses déclinaisons, presque au début, une première fois quand Sissi fait semblant de s'évanouir pour échapper à son devoir. On l'entendra à nouveau quand elle s'échappe à cheval, encore une fois, pour fuir ses obligations. Il y a quelque chose qui est comme ça. Non, en plus, il y a cette voix « go, go away », la vôtre, Camille. C'est comme une injonction à se libérer.
Écoutez, cette chanson est un mystère pour moi-même. Et ce qui est un encore plus gros mystère, c'est la façon dont les autres l'interprètent. Voilà, vous voyez cela et ça me va très bien. Pourquoi pas, échappe-toi, ou aussi c'est, je vais pas spoiler le film, mais il y a quand même un évanouissement à la fin du film. C'est une femme qui est d'un autre temps, qui est partie. Donc il y a ça aussi, la chanson est un portrait ou qui est écrit au passé. Donc c'est aussi ça, ce mystère de quelqu'un qu'on n'a pas connu, mais... Enfin, en l'occurrence, moi, je parle de quelqu'un que j'ai connu dans cette chanson, mais ça résonne autrement avec le film, en fait.
Quelques mots encore, Camille, pour savoir, parce qu'il y a plusieurs façons de procéder, mais pour la musique, il y a deux façons, hein, on va dire, un peu de façon caricaturale. La musique avant de voir le film, ou la musique en voyant les images. Alors, il y a certes She Was et ses déclinaisons, mais vous avez travaillé à quel moment, vous, sur la musique ?
Ah bah, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai travaillé au moment où le film était monté. Bon, il y a eu quelques ajustements, quelques modifications par la suite, mais je ne sais pas si c'est ça le sens de votre question.
Oui, bien sûr, c'est ça. Et vous avez composé en ayant les images du film déjà.
Voilà. Alors après, on peut travailler autrement et ça peut être très confortable aussi de travailler avant le tournage. Mais là, c'était aussi très agréable parce que le travail était vraiment mûr, complètement intelligible, et la réalisatrice, elle savait exactement ce qu'elle voulait, même à quel moment elle sentait la musique, etc. Donc c'était du sur-mesure, mais pas dans le speed, pas la musique et la dernière roue du carrosse. Voilà, c'était pas du tout ça. C'était comment la musique peut souligner la délicatesse, la subtilité du film, en fait.
Et on le sent bien en le voyant, ce film. Merci Camille pour ces quelques instants avec nous, ce film Corsage de Marie Kreutzer, dont vous avez composé la bande originale, est donc sorti aujourd'hui en salle. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne ETA, écoutée ou podcastée sur le site de France Culture ou via l'application Radio France, émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Como, Marie Sorbier et Apolline Limosino.